la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans la 8e escale de notre croisière scientifique organisée par l'Université de Montpellier en collaboration avec Divergence FM. Alors oubliez les maillots de bain et les lunettes de soleil, grand froid oblige, on reste à quai, ambiance plaide et charentaise bien au chaud à la maison. Et ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui nous parlons habitat. Home sweet home, mais version anticipation légèrement futuriste même. En effet, depuis un peu plus de 2 ans, Montpellier est le théâtre d'une expérience singulière et unique. Le principe, proposer à 2 étudiants d'habiter le temps d'une année un appartement observatoire ultra connecté. Objectif, permettre à un consortium de chercheurs pluridisciplinaires d'utiliser l'ensemble des données collectées à des fins de recherche. Pour qui, pourquoi et comment, on vous explique tout avec la nouvelle coordinatrice de ce projet baptisé Human at Home, Anne-Sophie Cas, bonjour.
Bonjour à tous.
Elle aussi est ultra connectée et toujours à mes côtés pour réaliser cette interview, la journaliste Aline Perriot, bonjour.
Bonjour Lucie, bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, montée dans notre DeLorean, nous quittons le futur pour aller faire un petit tour dans le passé grâce à nos collègues de la culture et du patrimoine scientifique. Audrey Théron nous fait découvrir la collection PatsTech, dont la mission est la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain. Pour la faire courte, on vous emmène dans le grenier de nos laboratoires et ça vous réserve quelques surprises. En toute fin d'émission, nous retrouverons Amrine, elle nous avait manqué, et elle nous parlera d'une innovation à destination des diabétiques. La science s'amuse, installez-vous bien, c'est parti. Alors Anne-Sophie Cas, pour commencer peut-être et pour permettre aux auditeurs de situer un petit peu de quoi on parle, donc dans cet appartement ultra connecté, il se passe quoi en fait ?
Eh ben, en fait, c'est un appartement où on vit le plus normalement possible. En tout cas, c'est le but de l'expérience, puisque c'est un appartement, c'est un vrai lieu de vie. Donc, c'est un appartement qui est équipé d'un certain nombre de capteurs, donc des capteurs au sol, des capteurs d'ambiance, des capteurs de confort, de température, lumière. Il y a aussi, effectivement, cette année de la domotique avec un assistant vocal. Donc, on a aussi des objets connectés qui sont proposés dans cet appartement et aussi des capteurs qui peuvent être sur la personne. Donc, en fait, c'est un appartement qui est hyper connecté, dont l'objectif est véritablement de comprendre les usages au quotidien de cet appartement avec un vrai lieu de vie où les étudiants peuvent inviter des personnes, vivre normalement, étudier, surtout qu'à l'heure actuelle, ils passent beaucoup de temps dans cet appartement, comme nous tous, hein, dans nos logements. Donc, effectivement, c'est un lieu de vie et c'est pour ça qu'on a voulu, effectivement, travailler sur cette problématique-là. Et on a beaucoup de chance à l'université d'avoir ce lieu et cet appartement observatoire.
Il y a combien de capteurs en tout dans l'appartement ?
Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement des capteurs de mouvement, puisque tout le sol en fait, de l'appartement est connecté. Il nous sert à connaître la façon dont le comportement locomoteur humain en fait, dans l'appartement, ce qui est une première. Donc il va y avoir des millions de pas enregistrés sur les 3-4 ans d'expérience. On va avoir des capteurs d'ouverture, fermeture de porte. On va avoir des capteurs de lumière aussi, de luminosité. On peut changer l'ambiance de la lumière. On sait à quel point ça peut être important aujourd'hui et notamment sur des périodes d'hiver où effectivement la luminosité fait un peu défaut. On a donc de la captation aussi météo, donc en termes de température, bien sûr de la captation sur la consommation d'énergie, d'électricité, parce que l'objectif aussi c'est de travailler sur les comportements éco-responsables de nos étudiants. On a de la captation aussi sur la personne, hein, puisque à l'heure actuelle, les occupants qu'on appelle les co-occupants, huteurs. Donc, si je dis co-huteurs, pensez que c'est les occupants de l'appartement. Ben, portent un bracelet connecté, donc qui mesure en fait effectivement leurs données physiologiques aussi, leurs émotions, leur gestion du stress. Donc, on a de la captation. Après, ça peut être un aspirateur connecté, comme ça peut être. On travaille sur des prototypes aussi d'étagères connectées qui sont pour l'instant pas installées dans l'appartement mais qui vont l'être dans le futur. Il y a aussi des caméras, des kinettes. Alors on ne filme pas la personne sur ça. On ne voit que finalement que son squelette hein, et ça permet de voir quels sont les mouvements, comment on non seulement on se déplace mais comment on bouge en fait dans l'appartement. Voilà, donc beaucoup de capteurs. Hein. Je suis sûre que j'en ai oublié plein, mais voilà.
On va retenir beaucoup. Voilà. Donc, c'est un projet interdisciplinaire. C'est un consortium de chercheurs qui travaillent là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a comme laboratoire? Combien il y a de laboratoires et dans quel domaine qui travaillent sur UT?
On a 13 laboratoires de recherche qui travaillent sur ce projet. On est sur deux universités, l'Université de Montpellier et l'Université Paul Valéry. Donc, il y a des laboratoires, effectivement, scientifiques, hein, sciences dures. Donc, je vais citer l'IUS, hein, qui travaille, bien sûr, sur les capteurs. Oui, l'Institut électronique des systèmes. On a, des laboratoires, qui sont des laboratoires, cette fois-ci, des SHS, hein, donc sciences humaines et sociales. Donc, on a Dynamique du droit, qui était le laboratoire qui portait le projet, jusqu'à présent. On a des laboratoires comme l'Humain, qui est un laboratoire à l'université de linguistes. On peut avoir des laboratoires comme MRE, qui est un laboratoire d'économistes, de l'université de Montpellier. On peut avoir effectivement des laboratoires comme Euromove, qui travaille sur le mouvement. On va avoir des laboratoires comme MRM, qui est donc mon propre laboratoire Montpellier Recherche en Management, qui est un laboratoire en sciences de gestion. Vous avez beaucoup de marketeurs qui travaillent aussi sur ce projet. Donc, le LIRM aussi. Donc,
on a effectivement. Laboratoire en informatique, robotique et micro-électronique.
Voilà, un laboratoire en informatique. Donc, on va effectivement avoir une interdisciplinarité qui est très présente. Le LIFAM, bien sûr, j'en oublie certainement, parce que c'est le laboratoire de l'école de l'ENSAM, d'école d'architecture. Les laboratoires de l'école des mines d'Alès.
Les linguistes aussi, je crois.
Donc, il y a effectivement une approche, une volonté, en fait, d'avoir une approche vraiment interdisciplinaire, pluridisciplinaire, dans ce projet, puisqu'on a un même objet d'étude qui est finalement la bêta connectée, qu'on peut effectivement voir au travers de multiples facettes, qu'elles soient dans l'interaction qu'on a avec les objets, qu'elles soient finalement dans la façon dont on se comporte, qu'elles soient dans la façon dont les murs nous entourent, donc l'habitat, le confort, etc. Donc on a effectivement une approche véritablement très diverse. Et c'est ça qui rend le projet très riche, en fait, et très peut-être innovant. Différenciant des autres projets qui existent sur le territoire, qui sont plus axés, je pense, sur la donnée, alors que véritablement le projet UT, c'est quand on parle de l'acronyme Human Atom Project, c'est que véritablement on a centré dans ce projet l'humain. Et c'est l'humain qui nous intéresse, et pas tellement les technologies.
Oui, c'est ce que... Voilà. C'est pas un défi technologique. Non. C'est vraiment les sciences humaines. Donc, vous l'avez dit, vous venez du MRM, pardon, donc Montpellier Resource Institute Management. C'est vous qui portez le projet, c'est les sciences humaines qui portent ce projet.
Oui, au départ, c'est un projet qui est né il y a 4 ans et demi, 5 ans. Au départ, il est né finalement de la volonté d'unité mixte de recherche de travailler ensemble de façon pluridisciplinaire. C'est le CNRS qui a porté au départ le premier financement de son projet qui a cru dans sa mission interdisciplinaire. Puis ensuite, effectivement, la métropole nous a soutenus, puis la région. Donc, effectivement, l'objectif, c'est que jusqu'à présent, Dynamique du droit était le laboratoire qui portait ce projet. Et aujourd'hui, à partir du 1er janvier, c'est le laboratoire MRM. Donc, effectivement, c'est la volonté, c'est que les SHS soient au centre, en fait, de ce projet. Et que les défis technologiques que nous avons connus, que nous connaissons, ne soient pas finalement le point d'entrée du projet, mais que ce soit vraiment un défi d'usage qui oriente en fait les problématiques de ce projet.
Et justement, du coup, c'est plutôt que l'appartement du futur, ce qu'on essaie de définir, c'est l'appartement dont on ne voudrait pas dans le futur. Il y a une véritable dimension de prévention qui permettrait d'avertir les usagers d'objets connectés des possibles dérives liées à leur usage, c'est
bien
ça ?
Oui, on étudie effectivement même le cadre juridique qui n'est pas encore posé sur la collecte des données, la protection des données, données, la sensibilisation des utilisateurs, le retour d'informations qu'on veut donner à l'utilisateur. Donc c'est effectivement un appartement dont on ne veut pas, qui correspondrait à une vision plus humaine. Parce que souvent, on présente en fait l'appartement connecté ou des objets connectés comme des choses qui prennent finalement le pouvoir sur l'humain. Nous, on aimerait rendre ce pouvoir à l'humain et finalement qu'il soit maître de l'usage en fait de ces produits et qu'il soit finalement qu'il accepte ou pas la prescription de ces objets, mais qu'il soit finalement le décideur. Donc, on est là finalement pour protéger, on est là pour sensibiliser, on est là surtout pour comprendre les usages. Et effectivement, c'est pour ça que les SHS sont au centre de ce projet, je pense. C'est effectivement cette approche-là qui a été choisie dès le départ.
Oui, parce qu'on parle de risque de dérive. On donne souvent l'exemple du frigo connecté. Est-ce qu'on pourrait se dire que, par exemple, il recueille des informations sur vos préférences alimentaires qu'il pourrait revendre par ailleurs pour un usage commercial et que ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément sensibilisé?
On n'est pas forcément sensibilisé, on n'est pas sûr que tous les consommateurs, les usagers ont envie que votre frigo, que le frigo commande directement et que finalement il n'ait pas son mot à dire. Donc le pouvoir de prescription de l'objet est finalement un élément qu'il va falloir étudier pour comprendre finalement si dans quel contexte, en fait, on souhaite que ces objets, finalement, prennent la décision. Donc, il y a beaucoup de données qui circulent entre personnes, entre les objets, entre les personnes et les objets, et entre les objets eux-mêmes. Et c'est finalement cette retransmission de données entre les objets qu'il faut comprendre, et il faut voir quelle est la place de l'humain dans cette interaction entre objets. Donc, la problématique est une problématique d'agencement. Comment on agence les objets connectés aujourd'hui? Quels services on rend à l'usager? Et comment l'usager peut s'approprier ces services? Et là, on est sur des dimensions véritablement en sciences humaines et sociales qui sont importantes pour comprendre finalement l'évolution des technologies. On a beau aujourd'hui développer plein d'objets connectés, c'est pas pour autant qu'on a un usage derrière. Donc d'ailleurs, ils sont beaucoup décrits sous l'angle de la réticence, des freins, et pas tellement finalement des valeurs ajoutées que peuvent apporter ces objets. Donc l'intérêt pour quand même bien comprendre, et je suis en marketing, donc je suis encore plus sensibilisée à ça, c'est véritablement de comprendre ce qu'on en fait déjà et pourquoi finalement on veut les utiliser. Donc le frigo connecté qui commande à votre place une plaquette de beurre, pourquoi pas? Mais à condition, effectivement, que l'usager puisse finalement intervenir, puisse finalement comprendre que finalement ça peut être intéressant pour lui ou pas.
Oui, il ne s'agit pas d'avoir de l'assistanat technologique au sein du logement qui soit rempli par ces objets-là.
Oui, on peut développer de nombreux services pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour effectivement travailler différemment sa liste de courses, pour avoir aussi des conseils nutritionnels. Donc effectivement, il y a plein de services personnalisés qui peuvent graviter avec toujours cette dualité entre les données qui sont collectées et d'un autre côté, la personnalisation des services qui sont apportés à l'usager. Qu'est-ce qu'on veut? Comment se fait cette balance et finalement ce calcul qu'on appelle le privacy calculus entre les deux? Qu'est-ce que finalement l'usager veut?
Alors si on parle justement donc de ces usagers dans le cadre de cette expérience, donc les co-uteurs, comment vous les avez sélectionnés? Donc on peut rappeler qu'il s'agit de deux étudiants et qu'on en est au troisième binôme, c'est ça?
On en est à la troisième année d'occupation de l'appartement. Ces étudiants sont sélectionnés au mois de juin pour l'année suivante. Ils sont sélectionnés à part un casting en fait qu'on réalise au sein de l'université. Donc, on informe effectivement les étudiants de ce casting, ils candidatent. On fait une sélection déjà avec un certain nombre de critères et des questions aussi, des tests psychologiques aussi. Tout ça, c'est mené au départ par le laboratoire Epsilon et notamment Déborah Nourrit hein, qui est en charge en fait de ce casting. On a donc un jury, on les interroge. Alors l'année dernière, c'était un peu compliqué parce que c'était pendant le confinement, mais ça s'est fait bien sûr tout à distance. Et après, on a aussi notre volonté, c'est une colocation, ils sont deux. Donc il faut aussi qu'ils se choisissent et qu'ils aient envie de partager cette expérience à deux. Donc c'est aussi notre volonté, c'est véritablement non seulement de voir quel est le duo finalement qui se prêterait le mieux en fait à cette expérience. Alors le but, c'est pas d'aller chercher des étudiants geeks, c'est finalement de chercher des personnes qui ont quand même une curiosité une envie, en fait, de participer au projet, au-delà d'avoir une récompense pécuniaire qui est finalement le loyer gratuit pendant un an. Finalement, c'est un lieu de vie, donc ils vont vivre normalement.
Et justement, dans ce lieu de vie, est-ce qu'il y a des interactions pendant la durée de la colocation entre les chercheurs et les co-auteurs qui sont dans le logement ?
Alors oui, on les interroge en fait tous les mois. Je suis d'ailleurs en charge avec ma collègue Claire Noy de l'Université de Paul-Valéry de les rencontrer chaque mois, de les interroger. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire parler des données quantitatives. C'est bien beau de recueillir des données par des capteurs, mais c'est intéressant d'avoir véritablement des données qualitatives qui nous permettent d'avoir le ressenti des occupants et de faire le lien et l'interaction entre des données captées automatiquement par des capteurs et des données finalement plus liées à l'humain. Puisque c'est un projet centré sur l'humain, ça nous paraissait indispensable. Donc ces entretiens ont lieu tous les mois. À l'heure actuelle, ils sont à distance, bien sûr. Et ils sont enregistrés, ils sont retranscrits. Le matériel, finalement, peut servir aux chercheurs pour comprendre comment les occupants se sont appropriés l'expérience. Ils ont aussi la possibilité d'écrire un journal de bord, comme ferait un astronaute sur sa station spatiale, c'est pareil. Donc, ils peuvent poster des photos, etc. Toutes ces données, bien sûr, ne sont pas communiquées à l'extérieur. C'est un projet...
Justement, comment vous les garantissez ? Comment vous garantissez leur vie privée et la sécurisation de toutes ces données-là qui sont...
Alors, les données sont recueillies et sont mises sur sont hébergées sur Humanum. Et donc, effectivement, il y a tout un process, non seulement dans la collecte de données, mais aussi dans l'accès aux données. Les chercheurs qui font partie du consortium de HUT font une demande d'accès aux données en fonction, motivée bien sûr par leur objectif de recherche. Et ce consentement est donné par, finalement, le directoire du projet, directoire qui étudie les demandes. Et notamment, tous les protocoles de recherche sont aussi associés et soumis à un comité d'éthique extérieur à ce projet. Donc, notre objectif est véritablement de protéger les données, de protéger aussi les occupants. C'est d'ailleurs pour ça que leurs noms ne sont pas communiqués à la presse. Nous ne communiquons absolument pas sur le lieu de l'expérimentation. Donc, ils sont relativement, je pense, protégés. Après, effectivement, ce projet, ils peuvent recevoir du monde chez eux, mais on les met en garde, on les sensibilise, ils ont un consentement éclairé de la collecte de données. Donc, tout ça est fait, bien sûr, dans des règles très éthiques, hein, et on y tient, parce que c'est effectivement les valeurs. Et on ne veut absolument pas être associé à un loft, voilà, parce que c'est effectivement, au départ... Un petit peu l'image qu'on a eue, le loft. Non, c'est pas un loft, justement, parce que l'objectif, c'est vraiment de protéger l'humain. Donc, on ne pouvait pas être associé à un loft et on a fait tout, enfin, on a fait notre possible, en tout cas pour mettre des process très transparents, justement, sur la façon dont on collectait, utilisait les données et par les chercheurs, mais aussi par les co-auteurs.
Et pour la suite, justement, là, il s'agit d'un appartement. Vous avez un projet d'un immeuble HUT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça va consister ?
Alors, on va changer d'échelle. Effectivement, jusqu'à présent, on était sur une dimension très individuelle, hein, donc un logement individuel. On s'aperçoit effectivement que on a eu depuis pas mal d'années la volonté aussi de travailler sur des espaces partagés, sur du vivre ensemble. On travaille beaucoup sur le bien-être, hein, mais le vivre ensemble peut aussi contribuer au bien-être collectif. Donc, la métropole, mais aussi nos partenaires, notre partenaire Nexity, nous a accompagné déjà sur ce premier projet de l'appartement observatoire et nous accompagne sur un deuxième projet. Donc il y a une construction d'une résidence, le permis de construire vient d'être obtenu. Donc sur à peu près 120 logements connectés, ce sera une résidence étudiante qui sera gérée par Studia, qui est un des acteurs en tout cas des résidences d'étudiants. Et l'objectif, c'est de travailler en collaboration avec eux pour que finalement ces logements soient connectés à la fois sur les studios, donc sur la partie individuelle, mais à la fois sur les espaces communs, justement pour voir effectivement quels sont les services qu'on peut proposer au sein finalement d'un smart building, puisque là on passe d'un smart home à un smart building, et comment s'insère le smart building dans la smart city aussi, pour faire le lien avec le quartier, avec finalement la métropole qui effectivement est notamment la dimension de la cité intelligente. Donc c'est un projet justement dans lequel on va changer d'échelle. Alors, on a pour ça créé une chaire au sein de la Fondation de l'Université, donc qui s'appelle « Les usages de l'habitat connecté », dont l'objectif pour nous est d'attirer de nouveaux partenaires, donc industriels, des associations aussi, qui pourraient finalement proposer sous forme de dons, soit de l'argent, soit des équipements aussi, qu'on pourrait mettre en place dans le cadre de ce projet.
Eh ben, on suivra ce projet avec intérêt. Merci beaucoup Anne-Sophie Casse d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et de nous avoir parlé donc, de cette expérience fascinante. On passe à la suite de notre émission avec la rubrique En salle des machines. Et comme je vous le disais en début d'émission, nous vous proposons de remonter le temps à la redécouverte de ces appareils qui ont fait la science. Et c'est Audrey Théron qui nous fait la visite.
Il y a quelqu'un qui m'entend ?
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Je m'appelle Audrey Théron et je suis chargée de collection à l'Université de Montpellier et je m'occupe plus particulièrement de la mission PATSTEC, donc la mission de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire, recontextualiser. Donc, c'est une mission qui s'est inspirée, en fait, d'un inventaire qui a été mené en 1999 dans la région Pays de la Loire, plus particulièrement à l'Université de Nantes, où on s'est rendu compte que les chercheurs utilisaient beaucoup de matériel et que ce matériel-là, souvent, on l'avait gardé avant les deux premières guerres mondiales et puis qu'à partir de 1950, on n'a pas beaucoup de traces. Et donc, ils ont commencé à aller dans les laboratoires et faire cet inventaire pour voir les objets caractéristiques de la recherche. Ça a intéressé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a confié la mission au Musée des Arts et Métiers à Paris en 2004 et qui s'est diffusée après sur les régions. Et c'est comme ça que c'est arrivé en Languedoc-Roussillon à l'Université de Montpellier 2.
Et donc, ça fait combien de temps que cette collection existe ?
On est à plus d'une quinzaine d'années maintenant. La collection, elle s'alimente chaque année d'environ 150 objets emblématiques des recherches qui sont menées sur le territoire du Languedoc-Roussillon.
Donc, autour de moi, je vois laboratoire Thaler, IBM, Paléonto. Vous avez un système de classification particulier ou pas ?
Oui, alors bien sûr, il faut se retrouver. Donc là, on est dans une petite salle où c'est un petit peu mélangé. Donc c'est vrai que c'est vraiment la caverne d'Ali Baba parce que c'est le matériel arrive ici, on le trie, on l'inventorie, on le prend en photo et une fois qu'on a fait ce travail-là, on va le disposer dans deux autres petites salles sur des étagères et puis sur chaque étagère, elles sont numérotées et chaque espace correspond en fait à un laboratoire. Et à la fin, après, on a des numéros d'inventaire qui nous permettent de retrouver ces objets.
Et justement, ces objets, ils viennent d'où ?
Toi, c'est moi qui sais que dans un laboratoire, il y a des recherches et des objets qui sont intéressants et donc je vais démarcher ce laboratoire. Et puis en fait, au fil des années, on a aussi développé tout un réseau de correspondants collections. Donc on a des personnes qui sont dans les laboratoires, qui nous connaissent et qui, lors d'un déménagement ou d'un changement de machine, vont nous contacter parce qu'ils savent que la machine qu'ils vont jeter est importante et retrace une partie de l'histoire du laboratoire. Donc la première salle, en fait, elle est consacrée tout simplement à tous les instruments qui ont été récupérés à l'Institut de Botanique. Donc c'est essentiellement de l'instrumentation, des microscopes, des choses comme ça. Et puis aussi pas mal de matériel administratif, en fait, parce que les administratifs produisent aussi des objets qui sont intéressants, des machines à calculer, des machines à écrire, des anciens ordinateurs, qui représentent aussi l'évolution plus globale de l'informatique en France.
Donc là, j'imagine que c'est une balance, c'est ça ? Non, rien à voir.
Si. C'est une grosse balance mécanique, donc il y a plusieurs types de balances. On a tout un système d'évolution, mais voilà, là, on avait des systèmes de balances qui étaient utilisés. Alors, on ne sait pas toujours précisément, parce que des fois, on récupère les objets dans le laboratoire sans le chercheur.
Là, on voit, je ne sais même pas trop comment le décrire, il y a un rouleau avec des inscriptions, mais c'est dans une boîte en fer et en verre, qu'est-ce que c'est ?
Donc en fait, c'est des thermohygromètres. Aujourd'hui, nous, on en utilise encore dans les collections et c'est tout petit. C'est pour réaliser des mesures de la température et de l'humidité relative dans l'air. Et donc la particularité, c'est que ça marche, ça fonctionne avec des cheveux humains, enfin des poils animaux. Et donc en fait, lorsque le cheveu est plus ou moins tendu, on sait s'il y a plus ou moins d'humidité.
Alors, il y a un autre joli instrument devant moi, c'est dans un cadre en bois et en verre. Et dedans, c'est un instrument en métal avec une roue et pas mal d'engrenages.
Alors c'est un microtome, et il doit même y avoir notamment un rasoir à l'intérieur. En fait, c'est un système de fonctionnement qui ressemble à une machine que tout le monde connaît, c'est la trancheuse à jambon. On va insérer à l'intérieur une coupe humaine ou végétale qui a été insérée dans la paraffine, mais on va réaliser des coupes très très fines avec cet appareil-là. Et là, on a un objet qui date 1900-1950, qui a peu évolué.
On peut aller voir là-bas ?
Ah oui, vous pouvez fouiller là, il n'y a pas de...
de souci. Hein.
On dirait des sculptures, on se croirait dans un musée, en fait, dans une exposition d'art.
Donc oui, c'est même ça ressemble en fait à des coraux. Donc en fait, c'est des squelettes floraux, c'est des représentations de la vascularisation interne des plantes qui sont en fait des puzzles en 3D.
Donc cette pièce, elle est consacrée à quelque chose en particulier?
Voilà, donc c'est les autres laboratoires qui étaient dans l'Institut de botanique. On avait le CHU de parasitologie et de mycologie. Et puis ensuite, on a tout ce qui est TP, de travaux pratiques de physique, du campus du Triolet. Et donc là, on a les collections anciennes du 19e siècle, donc pour les tout premiers cours de physique à la Faculté des sciences de Montpellier, qui sont juste en face des objets qui étaient utilisés par les étudiants encore il y a quelques années.
Toutes les universités n'ont pas un service comme ça de sauvegarde du matériel?
Non, l'Université de Montpellier a été la première, en fait, en 2004, à héberger et à créer un service qui allait gérer le patrimoine.
J'ai tellement peur de casser quelque chose.
Du mercure.
Donc il y a aussi parfois des produits un peu toxiques. Mais en général, nos objets ont tous été vérifiés. Alors, hormis le mercure, où il faut être plus précautionneux et plus minutieux quand on manipule les objets qui en contiennent.
Toutes nos collections ont été même testées à la radioactivité, etc.
Les collections finalement des années 60 sont plus toxiques, souvent avec la bakélite, l'utilisation aussi beaucoup d'amiante dans tout ce qui est câblage. Mais les collections ne sont pas dangereuses. Après, il y a des précautions de manipulation. En général, quand on les manipule, on a des gants.
Ah, les bouteilles de Leyde. Alors,
des bouteilles de Leyde.
De Leyde, ouais. C'était des bouteilles qui sont recouvertes. Je ne sais pas si c'est du carbone, mais en fait, c'est pour étudier tout ce qui est électricité statique. L'Apple II, quand même, qui traîne là, qui est quand même assez marrant.
On peut le décrire, celui-là. Ça ressemble à une machine à écrire, mais avec deux gros blocs dessus. Ah oui, c'est pour mettre les disquettes, c'est ça?
Là, oui, il y a deux blocs avec des disquettes. Alors, c'est des anciennes disquettes, les grosses. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est la petite souris à côté.
J'avais pas compris que c'était une souris, on dirait une télécommande pour une grue en fait.
Ah, voilà, c'est ça.
Des fois, les gens n'ont pas conscience de la valeur patrimoniale de ce qu'ils ont dans leur mur.
Pour beaucoup, en fait, si on nous disait faut jeter ton presse-purée ou ta moulinette, tu la jetterais parce que tu dirais je l'utilise tous les jours, donc j'ai pas conscience de sa valeur. Or, si c'est celle de ta grand-mère qui tourne comme ça, ou voilà, il y a toute une évolution, il y a des musées qui les conservent aussi.
Qu'est-ce que vous avez majoritairement là pour l'instant? On voit en majorité des ordinateurs, des microscopes et des balances, c'est ce qui revient le plus souvent, non?
Oui. Alors après, on a des thématiques d'inventaire. Donc comme ça, en fait, avec le réseau PADSTEC, ça a permis aussi de mettre en valeur les recherches qui étaient menées sur un territoire et puis de ne pas inventorier toujours les mêmes objets. Donc en Languedoc-Roussillon, puisqu'on est encore sur le découpage des anciennes régions, on est sur des thématiques quand même assez générales qui sont la santé, la botanique, l'enseignement des sciences. Donc là, ça nous permet d'intervenir dans tous les laboratoires. La microscopie et la photographie pour les sorties de terrain. Donc il y a beaucoup de matériel qui nous permet de retracer vraiment l'évolution de l'appareil photo du 19e jusqu'à nos jours.
Là, on est en face de deux grandes bonbonnes en verre vert.
Non, c'est du plastique en fait.
Alors, c'est du plastique et on vous a demandé ce que c'était et vous nous avez dit c'est un vrai
OSNI, donc un vrai objet scientifique non identifié. Donc des objets, on ne sait pas pourquoi ils étaient utilisés. Et là, pour le coup, les chercheurs qui nous les ont donnés ne savaient pas eux non plus.
Est-ce que vous savez combien vous avez d'objets en tout?
Alors, en tout inventorié, on est à plus de 1500 objets dans la base de données pour PADSTEC.
Là, il y a carrément un extraterrestre, là.
Ça va être inventorié, mais c'est vrai qu'on dirait une machine tentaculaire, avec plein d'engrenages, de fils, d'objectifs, donc voilà.
Qui fait son petit 1m80 de haut. Donc oui, là on est quand même sur des grosses... Il n'y a pas d'étagère, là il y a juste des machines, on dirait des moteurs un peu. Alors, tout ça.
Des moteurs, oui. Ça c'est toute une collection qui revient des travaux pratiques de méca, de mécanique. Donc là, il y en a qui vont du 19e jusqu'au 20e siècle. Alors au fond, il y a une sorte de... d'armoire électronique. Et en fait, c'est un ordinateur, un des plus vieux ordinateurs qu'il y a eu en Languedoc-Roussillon, qui est un télémécanique T1600. Et donc, c'est les premiers ordinateurs qui ont été installés pendant le plan d'informatisation en 1970 dans les lycées. Donc, il a été inscrit au titre des monuments historiques parce qu'il est représentatif, en fait, de cette époque-là, qui fonctionne encore. Par contre, il n'a même pas, je pense, la capacité de mémoire de nos téléphones portables. Hein.
C'est le gros au fond où c'est écrit Géol ou c'est celui à côté?
Celui à côté, là où il y a écrit T1600, c'est ça?
Et alors, donc celui qui est à côté où c'est écrit Géol, on dirait un distributeur de billets de banque, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça va avec la colonne qui est juste à côté, qui est pareil, qui est assez impressionnante, qui est un microscope électronique à balayage.
Donc ça, c'est la collection IBM.
Alors, donc là, on vient de réouvrir un box et là, on est vraiment sur du gros appareil.
Donc là, on est dans le garage qui contient en fait une donation particulière. C'est la donation de l'entreprise IBM qui avait un musée d'entreprise.
Là, on est face à des ordinateurs qui font 1,70 m au moins.
C'est des parties d'ordinateurs en fait. Des supercalculateurs qui étaient accolés les uns à côté des autres.
Et donc ça date de quand ça, les années 70 ?
Oui, années 70-80 là.
J'avais vu ça que dans des films, moi. Eh bien, merci beaucoup. La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité made in Montpellier. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.